à Rencontre spirituelle aujourd'hui. C'est la fête de Saint Jean-Baptiste de La Salle, fondateur des Frères des Écoles Chrétiennes, un prêtre auquel nous devons ici au Québec beaucoup, n'est-ce pas? Il suffit de rappeler les noms du frère Marie-Victorin, du frère Clément Lockwell, mais de quantité, de centaines de frères, même inconnus, qui ont été dévoués et qui se sont donnés, et qui ont fait énormément pour l'éducation et la formation de notre jeunesse. Au microphone, Raymond Beaugrand-Champagne. C'est en même temps, aujourd'hui, en ce 15 mai, la fête d'un saint André, André Abellon, bienheureux dominicain, mort en 1430, et de deux saintes Denises, dont je vous ai parlé l'an dernier. Je n'y reviendrai pas. Mais c'est aussi la fête de Jeanne de Lestonac, la fondatrice des Filles de Notre-Dame, morte en 1640. Je vous en avais parlé aussi l'an dernier. Donc, je passe à Jean-Baptiste de La Salle. Vous avez peut-être entendu hier l'abbé Jean-René Étier, qui a rendu hommage aux frères des écoles chrétiennes en faisant entendre un organiste de réputation mondiale, le frère Martin, un frère des écoles chrétiennes justement, qui a interprété des œuvres à l'orgue de façon magistrale de 13h à 14h hier après-midi. Le 30 avril 1651 est né à Reims, c'est la ville d'où ma famille, semble-t-il, vient dans cette région-là, en Champagne. Est né à Reims, donc, un 30 avril, Saint Jean-Baptiste de La Salle. C'était l'aîné des enfants de Louis de La Salle et de Nicole Moët. Moët, ça s'appelle exactement comme le bon champagne, Moët Chandon. Mon Dieu, je suis en train de faire de la publicité, je ne devrais pas. Moët, M-O-E-T. C'est un nom bien champenois. Et comme le nom Beaugrand, d'ailleurs, il y a du champagne Beaugrand. Chose étrange, j'en ai une étiquette chez moi. C'est M. Raymond Beaugrand que vous avez déjà entendu à Radio Ville-Marie, à l'émission qui précède la mienne, au Carrefour des Aînés. Il est venu deux fois, Raymond Beaugrand. Il a coupé son nom en deux. C'est Raymond Beaugrand Champagne, tout à fait comme moi. Le même nom, mais nous ne sommes pas parents. Nous descendons simplement des mêmes ancêtres. Et c'est lui qui m'avait donné une étiquette de Champagne Beaugrand. Et alors, tout enfant, Saint Jean-Baptiste de La Salle montre un goût très vif. Pour les cérémonies religieuses. Évidemment, les enfants à cette époque étaient assez émerveillés par des cérémonies à Reims, comme nous l'étions, nous, je suis né en 26, dans les années 30, dans les années 40, nous étions émerveillés par ce qui se passait à l'église. Même les nappes d'hôtel nous émerveillaient parce qu'elles étaient brodées, etc. Mais c'est tous les luminaires, tous les cierges, toutes les chandelles, le chant, l'orgue, les chorales, les soutanes rouges, les surplis, les évêques, etc. Tout ça, on trouvait ça fantastique parce qu'on n'avait pas de spectacle nulle part. Évidemment, il n'y avait rien qui se passait comme ça à l'école et il n'y avait pas la télévision et nous n'allions pas au cinéma alors. Le spectacle, c'était la liturgie catholique et nous goûtions petit à petit le sens de ces cérémonies. Et c'est ce qui lui est arrivé. Alors, il en reproduisait les offices chez lui, Saint Jean-Baptiste de La Salle. Il jouait dans son petit oratoire, mais c'était pas un simple jeu. C'était pour lui un exercice de recueillement. Je me souviens, on faisait la même chose quand nous étions jeunes. On avait des autels, on avait des petits calices, des petits ostensoirs. On s'amusait comme ça. Je n'ai pas vu d'enfant s'amuser comme ça depuis bien longtemps. Alors il demande aussi à sa grand-mère de lui lire des huit saints. On revient souvent chez les saints. Il lisait des huit saints. N'oubliez pas Ignace de Loyola, c'est ainsi qu'il s'est converti. Alors, bientôt, c'est pour Saint Jean-Baptiste de La Salle une véritable joie que de servir la messe chaque matin. On faisait ça aussi quand on était jeune. Moi, je servais la messe tous les matins à Sainte-Madeleine d'Outremont. Tout ce temps qui a duré des siècles et des siècles est disparu tout récemment. C'est tout nouveau. On voit plus d'enfants qui servent la messe le matin, ni l'après-midi. Cependant, les mois de vacances qu'il se plaît auprès de son grand-père, Jean Moët, à réciter avec lui le fils du jour. C'est tout un grand-père. Hein? Un grand-père qui récite comme les prêtres le fils du jour. Comme ma mère faisait un peu de temps en temps. Tout ça est disparu. Hein? Alors, il apprend donc à aimer toutes sortes d'exercices sérieux. Mais surtout, il apprend le recueillement de la prière intime avec Dieu. Très jeune, et c'est donné à bien des enfants, beaucoup plus qu'on pense. Hein? Et il s'adonne évidemment à la lecture. C'est donc un enfant qui a beaucoup de chance. Il ressent d'ailleurs une aversion instinctive pour toutes les fêtes mondaines. On avait la même aversion quand nous étions jeunes, nous. Hein? On aimait mieux prier que d'aller s'amuser à des foleries, comme on dit. Ça ne nous tentait pas. On sentait la perte du temps là-dedans. Hein? Il y avait là un germe chez lui de vocation sacerdotale et qui va devenir vraiment héroïque. Alors, sous les yeux de ses parents, qui sont de la haute bourgeoisie, hein, il est de famille plutôt riche, et sous la direction d'un précepteur, il y avait un précepteur à la maison pour lui enseigner, comme on fait aujourd'hui de plus en plus, paraît-il, en Amérique du Nord, les parents enseignent à la maison à leurs enfants afin d'éviter qu'ils aillent à l'école. Et on a vu des reportages ces jours-ci à la télévision. Alors le jeune Jean-Baptiste Lassalle, à la maison, apprend ce qui est nécessaire pour aller plus tard dans un collège. Puis il est envoyé finalement dans celui des bons enfants. Ça s'appelle comme ça, imaginez un collège, ça s'appelle le collège des bons enfants. Il y en avait plusieurs en France. C'est comme le collège, le couvent des oiseaux à Paris pour les petites filles. Quel de nom périmé, hein? On n'imagine plus ça aujourd'hui. Alors il est externe au collège, Jean-Baptiste de Lassalle. Il n'y passe donc que les 6 heures de classe. J'ai fait mes études à Brébeuf de la même façon et c'est pas mauvais. Et sa formation morale reste donc toujours sous l'influence de son foyer paternel. À 18 ans, il quitte la vie de collège. Il est muni du titre de maître essard, mais déjà il s'est donné à Dieu. Et le 11 mars 1662, à la fin de sa 11e année, quand il va avoir 12 ans, là, ou plutôt 11 ans, il a reçu la tonsure déjà. On donnait la tonsure à des enfants dans ce temps-là, qui désiraient devenir prêtres. C'est curieux. Et le 7 janvier 1667, un de ses parents, le chanoine Pierre Dauzet, décide de céder sa charge de chanoine à son neveu. Il n'a que 15 ans, il devient chanoine. C'était comme ça à l'époque. Étrange chose, mais c'était dans les familles à l'aise. Hein? Ce fait complètement insolite pour nous autres le met en contact avec un chanoine qui a une foi de feu. C'est le chanoine Roland, qui devient son ami, son confident et son confesseur. Et on voit que Dieu le prépare, n'est-ce pas, à de grandes choses. Et de ce fait, bien, Jean-Baptiste se considère comme un homme consacré, par état, à la prière publique, même à 15 ans. Il s'acquitte de ses nouveaux devoirs avec exactitude, en autant que ses études le lui permettent. Être chanoine, ça veut dire être attaché à une cathédrale ou à une grande paroisse et réciter les offices comme les moines. Ça existe encore à la cathédrale de Québec, je crois. On écrit à cette époque, « Monsieur de Lassalle est pour nous un modèle de régularité, de modestie et de candeur. » Il est tout jeune, 15-16 ans. Les ordres mineurs, il les reçoit l'année suivante, en 1668, à 16 ans. Il se prépare à la prêtrise. Sans quitter pour cela la maison paternelle, il y a 2 cours de théologie à l'université de Reims. Ça dure durant une année. Le 28 juillet 1670, à 17 ans, 18 ans, Jean-Baptiste perd son grand-père, Jean Moët de Brouillet, et qui a eu une grande part, donc, à la formation de sa piété. Peu de temps après, Saint Jean-Baptiste de Lassalle part à 19 ans pour Paris, pour y gagner sa licence, hein, puis son doctorat en Sorbonne, en théologie. Son père, M. Louis de Lassalle, dirige donc son fils vers la maison de Saint-Sulpice, qui va lui donner une règle, une méthode, une ascèse. Hein? Et là, le fameux sulpicien, M. Tronson, ceux qui ont fait leurs études au Grand Séminaire se souviennent il y a de nombreuses années qu'on lisait les exercices spirituels de M. Tronson, et ça faisait éclater de rire périodiquement les élèves, car c'était parfois d'un ridicule consommé. Mais M. Tronson n'était pas ridicule, c'était ce qu'il écrivait dans son temps. Alors M. Tronson devient le directeur de conscience de Jean-Baptiste Lassalle. Il lui inculque des habitudes de discipline puis de régularité tout à fait sulpiciennes. Jean-Baptiste Lassalle, c'est un observateur rigoureux de la règle. Il est exact aux exercices, comme un sulpicien, quoi. Il est détaché du monde, comme beaucoup de sulpiciens. Et cette influence de M. Tronson est de courte durée quand même. Dès avril 1672, elle est interrompue. À quelques mois d'intervalle, il arrive des catastrophes. Le père et la mère de Saint-Jean-Baptiste de la Salle meurent. Alors il lui laisse 6 frères et sœurs qui sont orphelins. Le dernier a 6 ans. Il devient chef de famille. Alors Jean-Baptiste de la Salle est en même temps très inquiet au sujet de sa propre vocation, seulement s'il doit continuer. Est-ce qu'il ne devrait pas se consacrer tout entier à ses frères et sœurs? Mais ce n'est pas l'avis de M. Tronson, ni la décision du chanoine Nicolas Rollin, ce chanoine de feu dont je vous ai parlé tout à l'heure, son nouveau directeur de conscience. Chanoine Rollin, d'ailleurs, lui donne l'exemple du renoncement et du dévouement pour la formation des maîtres d'école. C'est de là que ça vient, les frères des écoles chrétiennes, du cœur de ce chanoine Rollin, qui va diriger Jean-Baptiste de la Salle. Ça lui sourit pas tellement de former des maîtres d'école. Il est plutôt porté vers autre chose. Mais il va se laisser convaincre. 40 jours après avoir quitté Saint-Sulpice, Jean-Baptiste Lassalle reçoit le sous-diaconat à 21 ans à Cambrai. Puis là, l'incertitude sur son avenir a cessé. Les devoirs de chaque jour demeurent ce qui compte, et puis c'est varié. Il doit administrer les biens de ses frères et sœurs. Il doit s'occuper personnellement de leur éducation intellectuelle et morale. Il doit attendre 4 ans le diaconat et la prêtrise. Il ne sera ordonné en effet qu'à 27 ans, en 1678, parce que tout ça retarde ses études. Et puis, peut remplir les obligations de son canonical, comme je vous ai dit tout à l'heure, puis reprendre ses études de théologie à la faculté de Paris. Pendant toute sa vie, puis contrairement à l'usage de ce temps-là, ce jeune prêtre ne manque que par nécessité absolue à la célébration quotidienne de la Sainte Messe. C'était rare. Il y apporte d'ailleurs tant de recueillement et de foi que tous les gens qui assistent à sa messe en sont touchés. Une dame me racontait ces jours-ci qu'elle s'est convertie en assistant à la messe et en entendant cette parole intérieure que la nourriture que Dieu nous donne est plus précieuse que celle qu'elle donnait au même moment à son bébé qu'elle serrait dans ses bras et qu'elle allaitait. Ça, c'est pas ici à Montréal. Et en voyant l'hostie que le prêtre levait lentement, il ne se contentait pas juste de la montrer une fraction de seconde pour la redescendre sur l'autel, non. C'est un prêtre de foi, et elle a senti cette parole au fond de son cœur, que cette nourriture était plus précieuse que celle qu'elle donnait à son enfant. Alors, au cours de cette formation que recevait Jean-Baptiste Lassalle, la réputation d'être très fervent, d'être un homme réservé, autant qu'énergique et dévoué, s'est répandue. Alors, il pratique, lui, de son côté, le renoncement. Il aime l'austérité. Il recherche le sacrifice parce qu'il sait qu'il est bourgeois d'origine et que ce ne serait pas facile. Alors, il s'en remet à Dieu. Car il sait bien que nous ne sommes que des instruments dans la main de Dieu. Et à Paris, comme à Reims, c'est vers les petites écoles que son zèle le porte, sur la paroisse Saint-Sulpice, comme auprès du chanoine Nicolas Rolland. Des bons chanoines, il y en a ici aussi. On en a des bons chanoines au Québec. Mentionne le chanoine Jacques Grandmaison, que j'aime beaucoup. Alors Dieu va le pousser presque à son insu dans la voie de l'enseignement populaire. Alors on arrive à la fondation de l'Institut. Le chanoine Nicolas Rolland, mort le 27 avril 1678, avait choisi Jean-Baptiste Lassalle comme exécuteur testamentaire. Alors à peine ordonné prêtre, puisqu'il a été ordonné prêtre justement cette même année, quelques jours avant, le 9 avril, le chanoine meurt le 27 avril, alors il est à peine ordonné prêtre, il doit s'occuper des écoles de Reims, puis il est rempli de zèle, tout de suite. En 10 mois, il fait approuver par l'archevêque de Reims les sœurs du Saint-Enfant Jésus pour enseigner, puis pour les garçons, à l'école Saint-Maurice, qui est regardée comme la première de l'Institut des Frères des écoles chrétiennes, ben, elle est ouverte le 15 août 1679 et 5 mois plus tard, une seconde école est ouverte. C'est grâce à la générosité d'une femme très riche, Madame de Croyères. Alors, c'est affecté aux petits garçons de la paroisse Saint-Jacques, à 3 jeunes maîtres là, qui s'adjoignent à Monsieur de La Salle et à nos frères Adrien Niel. C'est un nom qui a eu une énorme importance pour lui, Niel, N-Y-E-L. Il y a plusieurs personnes comme ça qui ont entouré Jean-Baptiste La Salle et qui l'ont beaucoup secouru. Alors, il s'installe chez le curé, Monsieur d'Origny, mais il y a un prêtre qu'il est allé consulter à Paris, qui dit à Jean-Baptiste La Salle, « Voulez-vous vraiment former vos maîtres, vos frères des écoles chrétiennes, à la piété et leur faire aimer leur état à cause du bien qu'ils y peuvent faire? Bien, vous devez les loger chez vous, vivre avec eux en leur société. » Et pour Jean-Baptiste La Salle, qui est de famille bourgeoise, qui a toujours été bien vêtu, qui a toujours été propre, qui s'est toujours lavé, comme on ne se lavait guère à l'époque, aller habiter avec de humbles frères qui ne sentent pas toujours très bon, qui sont habillés de pauvres vêtements, qui mangent en faisant sans doute beaucoup de bruit, qui n'ont pas toujours les bonnes manières, c'était pas facile. À cette époque, l'instinct de classe sociale était très développé. Alors Jean-Baptiste La Salle prend son parti, puis durant la semaine sainte de 1681, il rassemble les maîtres d'école pour une retraite dans son hôtel particulier de la rue Sainte-Marguerite. Il se fait leur prédicateur, leur propose d'être pour les enfants bien des modèles. Et ainsi, la communauté se forme autour de ce chanoine de La Salle. Et le 24 juin, cette communauté s'installe complètement dans la demeure des La Salle. Un an plus tard, elle a son domicile propre, dans une maison là, au faubourg Saint-Rémy. Vous savez, Saint-Rémy, c'est pas n'importe qui, c'est l'évêque de Reims qui a baptisé Clovis. On va célébrer ça le 1500 ans, hein? Saint-Rémy. Alors, toujours sous l'impulsion de ce prêtre qu'il avait consulté, Monsieur de La Salle arrive vite à se convaincre qu'il ne pourra plus parler à ses frères, qui s'appelleront les frères des écoles chrétiennes, ne pourra plus leur parler de renoncement et de pauvreté, s'il pratique pas lui-même le renoncement et la pauvreté. Puis ça, là, c'est pas si facile pour un bourgeois. Il lui paraît impossible, finalement, de concilier les obligations du fait d'être chanoine à la cathédrale, puis la direction de cette communauté très simple. Alors, dès lors, en août 1683, il décide de démissionner comme chanoine, ce qui n'est pas facile parce que ça lui rapportait un peu d'argent, ça. Oui, il y avait des prébendus. C'était comme ça, c'était la coutume. Puis il distribue aux pauvres, en 1684, tout son patrimoine, tout ce qu'il a, pendant une période de famine. Il se fait pauvre. Et là, les maîtres d'école savent que, pour observer les conseils de perfection, là, ils doivent les pratiquer complètement. Sans ça, ils n'atteindront pas leur but, parce que là, ils se modèlent sur lui. Ils le voient devenir un saint, et ils veulent l'être. Alors, ils demandent une règle religieuse. Ils veulent avoir une règle. Et en mai 1684, s'ouvre le premier chapitre de la Congrégation Nouvelle. Les frères se lient pour une seule année, avec un seul vœu, celui d'obéissance. 12 disciples avec M. de La Salle prononcent ce vœu le 27 mai 1684, en la fête de la Sainte Trinité. Puis au début de l'hiver suivant, le costume est fixé bien. Oui, ils ont eu un costume. Il y a des gens qui n'aiment pas les costumes. Lui, il aimait ça. Il a pris une soutane de serge noir, ample, un rabat blanc. Vous savez, vous vous souvenez des frères des écoles chrétiennes avec ce beau rabat blanc, très empesé, là. Il avait un manteau des paysans champenois de Champagne, là, aux manches vides. On les appelait d'ailleurs les frères quatre bras parce qu'ils mettaient pas les manches de leur manteau. Ça leur donnait comme quatre bras, on disait les frères quatre bras. Ils portaient aussi, je m'en souviens, je les ai vus, un tricorne plat avec des larges bords. Un tricorne, c'est un chapeau qui a 3 pointes, là. Puis ils portaient les souliers des gens du peuple. Si je me souviens bien, ils avaient des boucles de métal argenté. Les membres de cette petite société prennent le nom de frères des écoles chrétiennes et pour mieux marquer à chacun d'entre eux qu'ils se séparent du monde en entrant dans l'institut, bien Ils doivent quitter leur nom personnel pour prendre, avec ce vêtement, un nom de religion. Dans les premiers temps, l'habit, si pauvre que le fondateur, malgré sa situation de famille, l'a occupé à Reims, là, mais il a lui-même revêtu ce vêtement avec ses frères. Tout ça paraît étrange, misérable et ridicule aux yeux de bien des gens. Et ceux qui le portent ont finalement à supporter plus d'une humiliation, comme dans certaines communautés, on porte encore des costumes très simples, très simplifiés, et paraît-il que parfois ils seraient humiliés, mais je suis sûr qu'ils sont moins humiliés qu'au moment de l'expulsion des communautés au début du siècle en France, au moment de la guerre de 1870 en France, au moment de la Révolution française à la fin du 18e siècle. Ils n'ont qu'à se régler finalement, ses frères, sur les exemples de leur fondateur. Pour lui, d'ailleurs, la prière longue et intense, c'est l'appui solide de chaque jour, c'est le recours consolant dans les moments d'incertitude, dit-il. Et souvent, il prononce à lui ses oraisons. Soit dans un petit réduit, un petit endroit très très pauvre qui est caché sous les toits, là. C'est glacial en hiver, c'est brûlant en été, soit auprès du tombeau de ce Saint Rémy dont je vous ai parlé tout à l'heure, pour lequel il a une grande dévotion. Et chaque vendredi soir, bien, il s'y fait enfermer pour prier jusqu'au jour. Et à force d'austérité, bien, il triomphe de tout le poids de sa nature, parce que c'est un homme qui s'endormait parfois. Il avait de la difficulté à se réveiller, d'ailleurs, le matin. Il avait une santé parfois un peu délicate. Alors, au début, il n'aime pas la nourriture grossière de la communauté, il n'a jamais mangé comme ça. Mais finalement, il traite son corps avec beaucoup de rigueur. Il doit, comme Saint François, là, faire tout ce qu'il peut pour devenir un vrai religieux. L'humilité est par excellence la vertu qu'il prêche d'exemple. Il est doux. Il est affable aussi, très affable. Même pour les gens très importuns qui viennent du dehors et qui sont vêtus d'habits usés et rapiécés. Parce que ça a toujours un peu une certaine importance. Il a d'ailleurs écrit sur la mode. C'est assez curieux. Puis il recherche les gens les plus simples au lieu de les fuir. Il recherche les travaux pénibles. Il recherche aussi les travaux humiliants. Et il veut, en 1686, abandonner ses fonctions de supérieur. Il obtient de ses frères qu'il lui nomme un successeur. Alors ils choisissent pour le remplacer le frère Henri Lheureux. Le même nom que Gaston Lheureux, là. Et avec une vraie joie, Monsieur de la Salle se fait obéissant devant ce jeune frère qui n'est pas prêtre. Mais l'autorité religieuse s'étonne de cette situation anormale. L'évêque annule l'élection du jeune frère, puis oblige le prêtre fondateur Saint-Jean-Baptiste de la Salle à reprendre la direction de la communauté. Là, les frères cèdent à l'entraînement d'un tel exemple. Ils voient de plus en plus chez leur fondateur un saint. Ils s'associent aux pensées, puis aux prières, puis aux mortifications, puis aux pénitences de celui qu'ils admirent plus que tout. Quelques-uns, au début, d'accord, se lassent, trouvent qu'il en fait trop. Mais d'autres viennent, et pas seulement des pauvres maîtres, mais aussi des membres des familles les mieux placées de la région, qui décident de se dévouer auprès des enfants pauvres, avec Saint-Jean-Baptiste La Salle. Quelques-uns, d'ailleurs, en meurent. Oui, ils en meurent. De 1681 à 1688, sur les 15 premiers frères, 6 au moins meurent prématurément avant leur 30e année. Leur courage a un grand ascendant sur leurs condisciples. Il y a deux créations qui viennent compléter l'œuvre, à savoir un petit noviciat, là, avec une vie séparée, sous une règle plus douce, heureusement, où des jeunes gens de 14 ans sont reçus, formés et instruits pour entrer vers 17 ans dans la communauté, comme les frères des écoles chrétiennes le faisaient encore il y a une quarantaine ou cinquantaine d'années. J'avais un cousin qui était entré là à 13 ans. Puis, il a établi aussi, la deuxième chose, c'est la plus ancienne de toutes les écoles normales. C'est lui qui a inventé ça, les écoles normales, en vue de former des maîtres pour les écoles de campagne. Alors ainsi, l'Institut des frères des écoles chrétiennes, fondé à Reims, apparaît comme un organisme puissant. Et il a comme ressort, quoi? L'esprit pauvreté. Alors, Jean-Baptiste Lassalle pense que son œuvre ne doit pas paraître attachée au diocèse de Reims. Par son établissement à Paris, son œuvre répandrait à travers le royaume entier, se répandrait partout. Il en a d'ailleurs fait la promesse au curé Saint-Sulpice. Il confie la communauté de Reims au frère Henri Lerue, là. Il part donc à pied avec deux frères pour Paris, où il arrive en 1688, le 24 février, et c'est en quelque sorte une œuvre nouvelle qu'il va créer. Ça va être très difficile, ce sera extrêmement compliqué. Saint Jean-Baptiste de la Salle a beaucoup de succès à Paris, et ça tourne contre lui. Et il y a des difficultés inattendues aussi. Le costume des frères paraît étrange. Le curé de Saint-Sulpice décide de le faire abandonner. À cette occasion, le fondateur, Saint-Jean-Baptiste de la Salle, n'est pas du même avis, puis il est tenace. Il écrit d'ailleurs un mémoire éloquent qui définit avec humilité la communauté des écoles chrétiennes. Il décrit l'habit adopté en insistant sur les inconvénients d'un changement général, et particulièrement pour les frères, dont l'habit est en usage depuis 5 ans. Et en rappelant enfin, comme M. Vincent de Paul, Saint-Vincent de Paul, qui a jugé qu'un habit spécial, en quelque manière, est nécessaire pour retenir les sujets dans sa congrégation. Mais oui, Saint-Vincent de Paul dit ça. Et Saint-Vincent de Paul soutenait aussi que la plus forte raison, cela est indispensable dans une communauté dont les sujets sont peu instruits. Curieux. Enfin, je vais te donner ça comme anecdote. C'est assez sympathique. Et alors, finalement, on décide de fermer l'école à Paris. On la rouvre. Se passe des tas de problèmes. Et il faut bientôt augmenter le personnel de Paris. Saint-Jean-Baptiste Lassalle fait venir de Reims le frère Henri Lerue pour lui confier l'école. Et les deux premiers frères venus de Paris, l'un d'eux se retire par jalousie, l'autre ne demeure que pendant 2 ans. Et le pauvre Saint-Jean-Baptiste de la Salle lui arrive des tas d'événements comme ceux-là. Un traitement énergique, finalement, va triompher d'une maladie qui l'attaque terriblement. Et il revient à la santé lentement. Et puis des frères dans une école à Laon, L-A-O-N, ont été atteints par la maladie. Alors ils courent pour administrer les derniers sacrements à l'un d'eux. Ils passent à Reims et on le rappelle à Paris où le frère Lerue est mourant. Il arrive trop tard pour fermer les yeux de celui qu'il considérait comme son successeur chez les frères des écoles chrétiennes, là. Alors, on est loin des jours de 1684, après les premiers vœux, où c'était la fête. Cependant, Jean-Baptiste de la Salle demande à Dieu de nouvelles forces, puis il se remet à l'œuvre. Il loue près de Paris un vaste enclos avec une simple bâtisse. Il y installe les frères, parce que les classes sont tellement insalubres à Paris qu'ils sont malades et épuisés. Les vacances arrivées, bien, il rappelle à lui tous ses frères. De Reims, de Laon, de Guise, de Rethel, et au cours d'une retraite, ils stimulent leur vocation, ils réconfortent leur faiblesse. Puis, avec deux de ses disciples les plus dévoués, là, ils contractent l'engagement solennel de se consacrer à l'établissement de la Société des écoles chrétiennes, même s'il ne resterait que 3 vivants dans cette société, et si on serait obligé de demander l'aumône et de vivre de pain seulement. Il est décidé, là, il est convaincu qu'il faut aider les enfants pauvres. Et les autres frères sont réconfortés. Ils reprennent après cette retraite le chemin de leurs écoles. Ils s'engagent à une correspondance mensuelle dans laquelle ils ouvrent leur cœur, là, puis ils vont demander des avis. Et la communauté se forme vraiment, hein. C'est par les lettres que c'est nouveau. Puis là, il y a de nouveaux novices qui se présentent. Alors, il faut créer à Vaugirard, près de Paris, un vrai noviciat. Et tout s'organise. Et le noviciat s'ouvre en 1692. C'est une vraie maison de pauvreté, de pénitence et de prière. Et le frère qui s'occupe de ça est accompagné de Saint Jean-Baptiste de la Salle. On y souffre d'une terrible famine qui sévit à Paris pendant les 2 hivers de 93 et 94, il y a 3 siècles. Puis il y a des mésententes qui s'élèvent entre M. de la Salle et le curé de la paroisse, M. Beaudran. Pas Beaugrand, mais Beaudran. Et il y a toutes sortes d'épreuves. Il lui arrive des affaires épouvantables. Et finalement, les frères manifestent heureusement le désir de s'attacher par des vœux perpétuels. Alors, c'est en la fête de la Sainte Trinité, il y a plus de 300 ans, donc, que 12 frères prononcent la formule définitive de leurs vœux. Et dès le lendemain, M. de La Salle veut de nouveau réaliser son désir de démission. C'est pas une défaillance, mais par humilité, parce qu'il veut donner vraiment à un frère, laïque, si on veut, qui n'est pas prêtre, là, parce que les frères sont en fait des laïcs religieux, si on peut dire, ce sont pas des clercs, et il veut qu'il y ait une union plus forte entre eux. Et les frères doivent prendre un supérieur dans leur rang. Là, le scrutin se fait, mais c'est pas facile. Hein. Et puis, M. de La Salle songe à fortifier le noviciat. Il donne tous ses soins aux novices. Il partage leurs plus humbles travaux en dépit de toutes sortes d'infirmités. Puis, il rentre dans la solitude de Vaugirard, là, après la visite des écoles en Champagne. Là, il veut mettre par écrit la règle que pratique la communauté. Et ce texte, qui a été écrit en 1695, n'est considéré que temporaire. Et puis après avoir écrit La conduite des écoles, qui est le livre destiné aux maîtres, aux frères, le fondateur, Saint Jean-Baptiste de La Salle, en écrit un pour les écoliers sur les règles de la bienséance et de la civilité chrétienne. Je le lis dans une édition très ancienne, publiée de façon très curieuse et très étrange. Je n'ose vous dire, mais c'est même écrit là, de la manière dont on doit demander et recevoir à boire et boire lorsqu'on est à table. Si je vous lisais ça, vous éclateriez de rire tellement les coutumes ont changé depuis ce temps-là. On n'a plus les mêmes idées. Mais il fallait qu'il enseigne à des enfants très pauvres comment manger. Et oui, ce sont des pages évidemment très simples qui donnent aux enfants toutes sortes d'avis sur la modestie, sur le maintien, la bienséance. Alors, il requiert des prières pour et de l'argent pour son noviciat. Ce n'est pas facile. C'est une immense aventure. Mais là, on entre dans une période de développement. Il y a toutes sortes d'épreuves. Pendant les 20 dernières années de sa vie, rien n'a été épargné à Jean-Baptiste de La Salle. Le récit qu'on en peut faire, ce n'est qu'une répétition de grandes épreuves et de progrès fructueux aussi peut-être. Le fondateur est à l'occasion trahi, il est même renié, persécuté, condamné. Il en arrive à être déposé, il est proscrit. Puis malgré cela, les écoles se multiplient à Paris puis en province, un peu de tous côtés, dans toute la France. D'abord, tout va bien, la communauté rentre dans Paris pour s'établir, après en avoir été chassée. Elle est aussi pauvre, mais elle devient beaucoup plus grande. Elle s'installe près du couvent des Carmes, c'est-à-dire près de l'Institut catholique aujourd'hui, c'est pas loin de Saint-Sulpice, ça. Dans une demeure assez vaste, qu'ont habité des moniales. Là, les frères d'école chrétienne y sont restés jusqu'à la confiscation en 1791, au moment de la Révolution française. Et sur la paroisse de Saint-Sulpice, les écoles chrétiennes sont florissantes. Leurs 14 classes instruisent 1 millier d'enfants. La bonne tenue des écoliers attire même des gens des bonnes familles. Et par contre, ça suscite la jalousie des maîtres des petites écoles. C'est ça les disputes. C'est la dispute entre les anciennes écoles et les nouvelles écoles. Parce que lui, il a une nouvelle méthode d'enseignement aussi. Il est progressiste. Alors après, les écoles chrétiennes s'ouvrent les écoles normales aussi. J'en ai glissé un mot tout à l'heure pour la formation des maîtres d'école de la campagne. Puis la maison de Paris, qui remplace le séminaire jadis fondé à Reims, a beaucoup de succès. Une fondation qui devient le modèle des patronages aussi, des cours d'adultes, c'est l'école dominicale. Elle est ouverte à ceux qui, la semaine, travaillent en atelier. Puis elle réunit plus de 200 jeunes gens âgés de moins de 20 ans. L'entreprise, cependant, est compromise par ceux qui en ont la charge. Oui. C'est triste. Et le fondateur a encore la douleur d'être regardé, lui, comme la cause de ce désastre. Alors, il y a une persécution douloureuse qui s'exerce alors contre Saint-Jean-Baptiste de La Salle pour des motifs variés. Cette persécution doit le poursuivre jusque sur son lit de mort. Terrible, hein? Les fondateurs ont don de la misère, et les meilleurs protecteurs se retournent contre lui. À maintes reprises, le curé de Saint-Sulpice même trouve trop sévère la discipline de noviciat. Il a cherché à modifier les règles de l'Institut des Frères des Écoles Chrétiennes en plaçant les frères sous l'autorité du curé de paroisse. De son côté, Saint Jean-Baptiste Lassalle, insiste pour maintenir indépendance sa communauté. Il veut pas qu'elle soit sous la juridiction des prêtres. Et puis un incident fait éclater le conflit. Le frère Michel, maître des novices, puis un autre frère qui est directeur des écoles de Paris, apporte en tout une espèce de rigueur qui est vraiment exagérée, c'est maladroit. Deux novices, successivement, obtiennent le droit de se plaindre d'être maltraités par ces frères-là. Et la douceur de Saint Jean-Baptiste de la Salle aurait aisément tout apaisé, mais il était absent. C'était en voyage. Alors les plaintes sont portées devant le curé de Saint-Sulpice, puis la première trouble ce curé, la seconde l'indigne, il est vraiment fâché. Alors il rédige un mémoire pour être remis à l'archevêque, et puis ça rejette toute la responsabilité de ce qui est arrivé sur M. Jean-Baptiste Lassalle, en insistant sur le dégoût qui est inspiré aux frères par la rigueur de l'Institut, et sur l'incapacité du supérieur, Jean-Baptiste Lassalle, à les maintenir unis. Puis une requête, les prescrites n'apportent pas de preuves. Ça met plutôt en lumière l'union des frères des écoles chrétiennes entre eux, et puis l'affection profonde de chacun d'entre eux pour leur supérieur. Mais pourtant, le rapport conclut contre Saint Jean-Baptiste Lassalle. Alors, quand il revient au cours de l'enquête de son voyage, il prend les interrogatoires des frères, des novices, pour un témoignage visible de la sollicitude de l'archevêque. Il court remercier même le prélat, parce qu'il s'aperçoit que le prélat est revenu sur son intention. Mais, étrange chose, l'archevêque lui dit, « Monsieur, vous n'êtes plus supérieur, j'ai pourvu votre communauté de quelqu'un d'autre. » Le coup est rude, hein? C'est terrible, c'est imprévu. Mais il accepte la sentence, sans même demander les motifs. Il rentre très calme, prend le dernier rang dans sa communauté. Quelques jours après, l'enquêteur, qui est le vicaire général Pirot, ben oui, Pirot, comme M. Pirot ici, revient présenter à la communauté un M. Bricot comme supérieur désigné. Mais ça ne va pas, les frères le rejettent et se réfèrent plutôt à Saint Jean-Baptiste Lassalle. La terrible épreuve de plusieurs mois, se termine finalement en janvier 1703. L'Institut des frères des écoles chrétiennes en sort raffermi. Les frères se rassemblent vraiment autour de Saint Jean-Baptiste Lassalle, qui en conclut qu'il ne faut pas continuer les dures pénitences imposées aux frères. Alors, ces épreuves continuelles sont recouvertes, si on peut dire, par toutes sortes de fondations qui se succèdent d'année en année. Monsieur de Lassalle est attiré vers Rouen par le souvenir de son premier collaborateur. Il va y passer quelques années fructueuses, de 1705 à 1711. Les premiers succès amènent à Saint-Yon, là, dans cette région-là, la fondation d'un pensionnat. Ben oui, un pensionnat destiné à devenir le type de ce qu'on nomme aujourd'hui l'enseignement secondaire moderne. Et c'est Saint Jean-Baptiste Lassalle qui établit ça. Cet endroit, d'ailleurs, ça va devenir pour Saint Jean-Baptiste Lassalle un séjour préféré. Le temps qu'il y passe, c'est peut-être le plus tranquille de sa vie. Il y a beaucoup moins de problèmes, là. Mais ce n'est qu'un répit, en fait. Arrivent des soucis. Et puis, il y a toutes sortes de différends, de disputes à Saint-Sulpice. Ça se termine en octobre 1706. L'année suivante, les frères peuvent avoir, finalement, une demeure suffisante et salubre, parce qu'ils vivent dans une extrême pauvreté dans la paroisse Saint-Sulpice. À Rouen, c'est à ce moment que Saint-Jean-Baptiste Lassalle va développer son noviciat à Saint-Yon. Yon, ça s'écrit Y-O-N. Et puis il va développer aussi un pensionnat, là, puis l'école de réforme. Et tantôt dans l'une, tantôt dans l'autre de ces maisons, il est retenu par la maladie, les infirmités. C'est la conséquence de toutes sortes de mortifications qui s'est infligées. À Saint-Yon, il a une espèce de loupe au genou. On appelle ça une loupe, c'est-à-dire un développement de quelque chose au genou. J'en ai un, moi, à mon genou droit. Puis ça nécessite de douloureuses opérations. Et il endure tout ça avec sérénité. Vous savez comment, qu'est-ce que c'était ces opérations? On le couchait sur une espèce de lit de fer, puis on allumait en dessous des braises, puis on y mettait des herbes supposément pour le guérir. Alors il était comme rôti, comme Saint-Laurent. Quelle étrange médecine! Et il donne dans ces occasions des exemples de patience et de résignation. Il est devenu le martyr de la pénitence, comme il dit, et alors il se décide à publier des petits livres de piété composés jadis, là, à Vaugirard, près de Paris, des livres utiles pour les maîtres, pour les écoliers. Le plus répandu a pour titre « Les devoirs d'un chrétien envers Dieu et les moyens de pouvoir s'en bien acquitter ». En somme, comment devenir des saints? Et on trouve dans ces livres-là l'esprit du christianisme dont il s'est imprégné de bonheur chez ses parents, un esprit qui inspirait toutes ses fondations, qu'il se plaît aussi à traduire pour la vie quotidienne en devoirs clairs, des devoirs précis. Dans toute la France, c'est la période de la grande extension de l'Institut des Frères Écochrétiennes. En 1708, à l'occasion de toutes sortes de créations multipliées, Saint-Jean-Baptiste de la Salle institue des visiteurs pour les deux premiers, dont les deux premiers sont chargés l'un des écoles du Sud, puis l'autre des écoles de Champagne. Saint-Jean-Baptiste de la Salle se réserve les écoles de Chartres, de Paris, de Troyes, de Dijon, qui est un peu vers le sud, de Calais et de Rouen. Et à travers les difficultés et les souffrances, bien, l'œuvre est assise, là, c'est vraiment solide. C'est un succès éclatant. Et, malgré tout, la pratique de l'humiliation lui a fait sacrifier sa réputation. Il est contredit, il ne réplique pas. Il est démenti, il se tait. Quand on le blâme, il s'excuse même pas. Condamné, il cherche pas à se justifier. Toujours, Saint-Jean-Baptiste de la Salle en fait la règle de sa vie. En 1711, une persécution éclate contre lui, puis le rappel de Provence, du sud de la France, à Paris. Il est accusé d'avoir extorqué un engagement en abusant d'un mineur. Il est condamné, puis défense lui est faite d'exiger des enfants mineurs de pareils engagements, puis d'exiger d'eux de l'argent, parce qu'il leur a engagé trop jeune dans sa congrégation. Les frères eux-mêmes n'osent pas protester, en écrivant à leur fondateur. Il doit croire que ses frères eux-mêmes l'abandonnent. Puis depuis, à Marseille, dans le sud, là, tout est mis en œuvre pour exciter les frères contre Saint-Jean-Baptiste de la Salle, le fondateur, qu'on le représente comme un homme étrange, dur, outré, inflexible. Saint-Jean-Baptiste de la Salle a retrouvé un peu de calme à la Sainte-Baume. J'espère que vous êtes déjà allé, c'est superbe. Il va chercher aussi à Grenoble un endroit bien calme, où il vit séparé du monde. Une crise terrible de rhumatisme ne cède qu'à un traitement qu'il a déjà subi, là, se faire cuire. Hein. Et pendant sa longue convalescence, il retouche quelques-uns de ses livres, notamment les devoirs du chrétien. Puis, il consent à aller refaire ses forces dans un ermitage. Il revient finalement à Grenoble, et est rappelé par les prières de plus en plus pressantes de la communauté des frères des écoles chrétiennes de Paris. Alors, Monsieur Jean-Baptiste de la Salle rentre dans la vie active en prenant part, malgré toutes les haines, à la fameuse lutte contre le jansénisme. Et il lutte fort bien. Finalement, des appels de la communauté de Paris l'obligent, en 1714, à reprendre la route de la capitale. Il doit vraiment y aller. Alors, depuis 1702, les frères de Paris ont un supérieur ecclésiastique, un prêtre, mais c'est seulement un nom. Il n'est pas vraiment supérieur. Alors, après l'éloignement de M. de la Salle, puis le fameux procès de 1712 dont je vous ai parlé tout à l'heure au sujet de ce jeune enfant, les frères sont plutôt désorientés. Là, un frère, le frère Barthélemy, qui est désigné pour remplacer Saint-Jean-Baptiste de la Salle à la direction, n'a pas de pouvoir défini. Puis le supérieur ecclésiastique, là, qui n'exerce pas de pouvoir, l'abbé de Brou, veut exercer finalement les pleins pouvoirs. Et même il exige qu'un acte dressé par les frères le nomme officiellement à leur tête. Il formule de nouvelles règles. Il croit pouvoir les faire aisément approuver par le cardinal de Noailles, qui est l'archevêque de Paris. Et alors, l'archevêque, au bout de 8 mois, se borne à écrire qu'il ne juge pas à propos que rien soit décidé. Alors, là, les troubles continuent. Les frères de Paris somment Monsieur de La Salle de revenir, donc en 1614. Et après son retour, bien, il habitue peu à peu les frères à s'adresser au frère Barthélemy, qui est son successeur, qui est chargé d'expédier les affaires courantes. Saint-Jean-Baptiste de La Salle habite ordinairement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à Saint-Thion, qui devient le siège principal, finalement. Il ne s'en éloigne que pour des voyages, pour un séjour aussi à Paris, à Saint-Nicolas de Chardonnay. Et à force de persuasion, on parvient à lui faire accepter sa retraite. Et puis, alors, le 18 mai 1717, le frère Barthélemy est élu supérieur général de façon claire et définitive, et à sa demande, deux assistants lui sont adjoints. Alors, il est déchargé désormais de toute autorité, Saint-Jean-Baptiste de La Salle, est très heureux de pratiquer simplement une humilité, une obéissance des petits. Il voudrait vivre inconnu dans le silence, dans la prière. Les heures qu'il a encore à passer parmi les siens à Saint-Thion ne doivent plus être qu'une espèce de préparation à la mort, par la prière et le recueillement, par la souffrance aussi, mais toujours par la persécution. Il compose alors son explication de la méthode de raison. Il est doux, il est affable, tout le monde le recherche. Des novices qu'il édifie aussi par ses entretiens fréquents sont très touchés. Et des enfants de la maison, parmi lesquels il s'est fait connaître, bien, il y a des vocations qui surgissent là. Il y a des pensionnaires qui l'aiment pour sa bonté, qui est sereine. Puis à 68 ans, durant les premiers mois de 1719, il y a des attaques rhumatismales terribles, puis à maintes reprises, ça lui inflige des souffrances épouvantables qui sont devenues très aiguës, et ses forces ne peuvent plus supporter les traitements barbares dont je vous ai parlé. Le mardi de la semaine sainte, il se lève pour une dernière fois pour recevoir à genoux la Sainte Communion. Puis le jeudi saint au soir, tous les frères des écoles chrétiennes là autour de lui se rendent à l'infirmerie, au chevet de cet homme extraordinaire qui les bénit une dernière fois. Alors il leur fait les dernières recommandations. Et qu'est-ce que c'est? Mais c'est l'union entre eux et la séparation du monde. Ne pas se laisser toucher par l'esprit du monde. Vers minuit, il entre en agonie, puis il expire à 4 heures du matin. C'était le vendredi saint, 7 avril 1719, le même jour que Jésus, qui est mort le 7 avril de l'an 30. Le corps de Saint-Jean-Baptiste de La Salle a été inhumé à l'église Saint-Sever, où l'on peut encore voir le monument élevé à sa gloire. Lui, le fondateur des frères des écoles chrétiennes. Il a déclaré des choses absolument admirables. Dieu ayant choisi pour vivre dans la pauvreté, il a fait la même chose que ça. Il a distribué tous ses biens aux pauvres, comme je vous ai dit, en 1684 et 85. Il dit, reconnaissez Jésus sous les haillons des enfants que vous avez à instruire et adorez-le en eux. Aimez la pauvreté et honorez les pauvres. Il ajoute, nous sommes, nous les frères des écoles chrétiennes, de pauvres frères oubliés et peu considérés des gens du monde. Il n'y a que les pauvres qui viennent nous chercher. Ils n'ont rien à nous donner que leur cœur, disposés à recevoir nos instructions. Aimons ce qu'il y a de plus humiliant dans notre profession pour participer en quelque chose à l'abjection de Jésus-Christ. Dans des lettres qu'il a écrites, on trouve aussi de très belles choses. Ne vous inquiétez, vous vous inquiétez parce que l'oraison est trop longue, ah mon cher frère, elle est le soutien de l'âme. Voudriez-vous la négliger? C'était vraiment un homme d'oraison. Et il a dit aussi, pensez, je vous prie, à remédier à tous vos problèmes au plus tôt, car vous savez que l'affermissement de l'Institut des Frères des Écoles Chrétiennes dépend des novices bien formés et bien réguliers. Je suis en état d'aller aux principaux exercices comme les autres, de coucher au dortoir commun et de manger comme les autres au réfectoire, je vous prie de ne pas vous y opposer. » Et il était comme ça sur ses vieux jours. Ces tâches apostoliques l'ont habité, l'ont nourri. La seule pensée qu'il aurait pu vivre autrement qu'avec ses pauvres frères était celle qui l'habitait jusqu'au tréfonds de lui-même. C'était un homme d'un grand courage, d'une audace immense, qui a fondé en somme une association de vrais maîtres chrétiens, des maîtres qui sont d'excellents apôtres selon ce qu'il souhaitait. Et pour lui, il méritait, il me semble, en tout point, d'être canonisé. Dieu, qui conduit toutes choses avec sagesse et avec douceur, et qui n'a point coutume de forcer l'inclination des hommes, voulant m'engager à prendre entièrement le soin des écoles, le fit d'une manière fort imperceptible, et en beaucoup de temps, de sorte qu'un engagement me conduisit dans un autre, sans l'avoir prévu dans le commencement, et c'est donc petit à petit que Dieu a gagné son cœur.